Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Aujourd'hui, nous allons analyser Monday Night Raw. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est le grand chamboulement, la draft, on échange le mercato hivernal. C'est bien IRM qui va vous présenter l'analyse du dernier épisode du show rouge de la WWE. Et avec moi, bah pas de bol, hein, lui aussi il a été drafté, échangé, direction le show rouge pour Giscal. Salut Giscal.
Ouais, on s'est bien fait avoir, ouais. Salut IRM, salut tout le monde.
Bon, honnêtement, on doit vous avouer que ça faisait plusieurs mois qu'on en avait parlé en interne, d'échanger un petit peu pour renouveler l'intérêt qu'on porte au show, et que c'est vrai que nous, on avait nos petites habitudes, hein, nos petites pantoufles, hein, tu te souviens, les pantoufles qu'on reproche à AJ Styles, bah nous aussi.
Pantoufles bleues.
Ouais, les pantoufles bleues. Bah là, on a mis nos baskets rouges, nos souliers rouges. Donc voilà, à voir. Est-ce que c'est une punition de regarder Monday Night Raw? Est-ce que c'est un plaisir coupable de regarder Monday Night Raw? La réponse est dans cet épisode, puisque Dean Ambrose y fait son rappel de vaccin, Drake Maverick pisse dans de la soie, et Alexa Bliss obtient une promotion. Écoute, c'est un visage familier pour les suiveurs de longue date de SmackDown qui ouvre le show, puisque Baron Corbin nous accueille, hein, c'est le GM temporaire, on va dire, de Monday Night Raw. Donc finalement, il a pris son envol, il a bien grandi, hein, depuis qu'il a quitté le show bleu. Donc déjà, on peut le féliciter pour ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça fait plaisir de voir qu'un petit poulain du show bleu a pris des responsabilités dans le show rouge.
Ouais, on pourra débattre sur l'intérêt, le côté entertainment divertissant de son personnage ou pas, mais en tout cas, un truc qu'on pourra pas nier, c'est que bah, il s'est bien installé dans le show rouge, il n'y a pas de problème, il a pris ses aises, et donc oui, ça fait plaisir de voir que des transfuges de SmackDown performent si bien à Raw.
Ouais, moi je suis pas étonné. Bon, alors il nous charrie sur Thanksgiving, il est là au milieu du ring. Il est également rejoint par Bobby Lashley, Eli Rush, hein, son sidekick, et Drew McIntyre. Alors, ils sont tous reconnaissants. Hein. Baron est reconnaissant pour son job, Lashley est reconnaissant, je crois, pour être aussi Barack qu'il ne l'est. et Drew McIntyre, il est reconnaissant pour avoir eu l'occasion d'exploser Braun Strowman la semaine dernière. Pardon. D'ailleurs, on a une petite vidéo, hein, de Braun Strowman qui est en rémission. Là, il a des gros bleus. Il a le bras couvert de bleus. C'est assez impressionnant. Non seulement la taille du bras, mais la taille des bleus. Son docteur n'a jamais vu un aussi gros bobo, qu'il nous dit. Et il a jamais vu un aussi gros bras également.
C'est vrai que ça explique cela.
C'est un sacré jambonneau là, qu'il a à la place des bras. Là. C'est assez impressionnant.
Il a trop bouffé, là.
Ouais. Ils ont des sacrés gabarits, hein, au show rouge. On ne peut pas leur retirer ça.
Non.
Donc, ils souhaitent aux joyeux Lupio là, qui sont sur le ring, de bien s'amuser jusqu'à ce qu'ils reviennent. Et « Get this ends ». Donc, voilà, il y a la menace, hein, la menace qui est là. D'ailleurs, ça m'a fait marrer parce que quand il dit « Get this ends », il lève un peu les bras comme ça, il se fait mal. Il est là « Ouï, 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 ouï ». Donc, voilà. Un petit peu fragile, hein, le Braun Strowman.
Il peut pas faire son mouvement habituel là, comme ça, là.
Bon, voilà, du coup, hein, la présence de Braun Strowman à TLC est incertaine, et voilà qui arrange les affaires, hein, de Baron Corbin, qui vise un poste permanent et qui annonce qu'il y aura bien le match à TLC, et que bah, si Braun Strowman ne vient pas, c'est victoire par disqualification, par forfait. Hein,
tout à fait.
Ce qui est normal.
Après tout. Bah, écoute, c'est le sport, hein, c'est comme ça, tu peux pas. C'est un no-show, ouais, c'est normal.
Bon, hein, avant qu'on parle de l'interruption par Elias. Parce que en fait Baron Corbin, j'avoue, il a pris un poste à responsabilité, mais il a beaucoup occupé ce show. Tu sais quoi, on va enchaîner comme ça, on va faire un petit package.
Ouais.
Il est interrompu par Elias justement, hein, qui vient vanner les méchants. Elias qui est désormais officiellement face depuis quelques semaines.
Ouais.
Il pense d'ailleurs que Layo Rush est un gamin et que du coup attention. La
protection de l'enfant. Hein.
Protection de l'enfance, effectivement. ce qu'il le charrie, en fait, il charrie Baron en lui disant que n'importe qui ferait du meilleur boulot que Baron Corbin, y compris Laya Rush, qu'il n'aime pas mais qui a un enfant, ou Drake Maverick, hein, le pisseux, là, qui ferait du meilleur job. On retrouvera d'ailleurs Drake Maverick dans un moment prestigieux et inoubliable de Monday Night Raw, un peu plus tard. Et c'est parti pour la chanson sur Bobby Lashley, hein, qui est le vrai adversaire, hein, actuel de Elias, son souffre-douleur. Et on part dans une grosse chanson, hein, Bob Lashley sucks, hein, avec le public, hein, qui se donne à cœur joie là, pour reprendre la chanson d'Elias. Et du coup, il y a match, et au moment où Elias s'apprête à faire le tomber, Lio Rush casse le compte de l'arbitre, ça provoque une DQ, mais en fait, c'était pas une DQ, puisque Baron Corbin révèle qu'il n'avait pas eu le temps d'annoncer la stipulation qui est un no disqualification pour ce match. Du coup, Elias a beau se battre comme un beau diable, il plie sous les coups de chaise du manager et des gros muscles qui l'entourent. Bobby Lashley n'a donc plus qu'à ramener la victoire. Et voici le premier coup de la soirée, bien malin et des gros muscles partout qui transpirent. Qu'est-ce que tu as pensé de cette longue intro, mon Giscal, dis-nous tout.
Alors, bon, y a à boire, il y a maintenant, il y a du bon, il y a du moins bon. J'ai trouvé que l'intro avec Baron Corbin en connard de service, là, qui vient se moquer un peu de tout le monde, et puis les îles qui disent pourquoi est-ce qu'ils sont reconnaissants, parce que c'est le thème, hein, de Thanksgiving aux États-Unis, c'est voilà, tu étais reconnaissant de tout plein de choses, donc bah, ils y sont allés de leur mauvaise foi et de leur vantardise, là. Donc bon, c'était pas trop mal. L'intervention d'Elias aussi, j'aime bien. Écoute, il pose son petit personnage de face aussi. Moi, il me fait bien rire, Elias, dans son style impertinent à la guitare, là, qui nous fait penser, on le dit là depuis plusieurs semaines, des faux airs un peu du rock quand il faisait ses concerts de rock, ses chansons improvisées. C'est pas mal, il fait chanter le public. Moi, j'ai trouvé ça assez drôle. Le match derrière était pas... C'est pas le match le plus inspiré de l'histoire, mais on va dire que j'aime assez bien le nouveau Bobby Lashley, et j'aime bien le développement d'Elias un peu dans le ring. Alors ça reste un peu mou, ça reste un peu lent, mais j'ai trouvé que c'était un peu mieux que d'habitude. J'ai pas trouvé ça horrible, et j'ai bien aimé l'angle post-match aussi, avec la DQ qui n'en est pas une, Baron Corbin faux cul de service là, qui abuse de ses pouvoirs. Je trouve que c'est quelque chose qui est toujours assez efficace, moi personnellement. Ça me fait toujours ça fonctionne toujours avec moi, et puis bah après le beatdown était assez sévère, il était pas mal. Le Alabama Slam là sur les escaliers de Drew McIntyre, ouais, était dingue visuellement, c'était super impressionnant. Donc on va dire que dans l'ensemble c'était plutôt bien exécuté, toute cette grande intro. Je trouve que c'était assez efficace pour attirer de la sympathie sur Elias. Et puis pas pour installer certaines figures en top heel du show. Ce avec quoi j'ai plus de problèmes, c'est plus cette nouvelle alliance dont tu as parlé, voilà, cette stable qui semble, cette faction qui semble se mettre en place. Elle me fait un peu chier parce que.
Non, je suis. C'est un peu sans saveur. Comme tu dis, c'est un peu la solution de facilité. Tu te dis même top heel pour lequel on projette déjà de grandes choses. En la personne de Drew McIntyre, Bobby Lashley s'est trouvé un petit manager qui fait le job, qui arrive à pallier son inconstance au micro, enfin même, voilà, il est juste naze au micro. Du coup, on se demande, en fait, on a plus l'impression qu'on fait tout ça pour Baron Corbin.
C'est ça, un petit peu. Ouais.
Plutôt que... Et du coup, ça dessert les autres, quoi. Les mecs sont carrément au-dessus, on se comprend pas. Finalement, ils n'ont pas besoin vraiment de s'allier à ce GM. Ils n'ont pas vraiment d'intérêt, puisque finalement, ils n'obtiennent rien de plus. Toi, à la limite, s'ils obtenaient une espèce de title shot régulièrement ou quoi.
Non, c'est ça en plus. Tu as raison, parce qu'ils n'obtiennent rien. Parce qu'en fait, au final, le seul qui tire profit de cette association, c'est Baron Corbin, qui apparaît du coup comme une sorte de... mastermind un peu, mais tellement outrancier que tu te dis mais vous êtes cons les gars, ça vous sert à rien d'être là à part à tabasser quelques mecs de temps en temps. Parce que Baron Corbin, en fait, lui est bien content, lui il se dirige vers TLC, il va avoir son poste de GM permanent si Tout va bien. Mais en attendant, celui qui chope les title shots, bah, c'est potentiellement Braun Strowman. Mais bon, alors voilà, est-ce que tu peux te dire que, bon, bah, du coup, Drew McIntyre se dit, tiens, si jamais j'élimine Braun Strowman de la course et que Baron Corbin devient GM permanent, bah, peut-être que je vais avoir des opportunités derrière.
Ah, bah, qu'il lui fasse dire, alors, du coup, toi. Fin...
Ouais, sans doute. Mais c'est vrai que tant que tu fais pas dire ce genre de choses. Ça fait vraiment comme un cheveu sur la soupe cette association, ouais. Et ouais, ça m'a pas transcendé, voilà.
Bon, et puis c'est pas fini, hein. On va les revoir un peu plus tard.
Ah non, c'est pas fini.
D'ailleurs, c'est toujours pas fini, mais je le garde pour après. Où il est en train de faire ses rappels de vaccins, il est avec son docteur, il nous montre tous ces points là, bon, je sais qu'ils ont pas des super couvertures médicales aux États-Unis,
quand
mais
même.
Ouais. Quand même, de là, ouais, c'est assez impressionnant. Il s'est pas déplacé, hein, Dean Ambrose, pour ce soir. Et puis bah, c'est l'heure de qui pique comme ça un grand coup dans le cul de Dean Ambrose, hein, parce qu'il baisse son pantalon. Alors il baisse son pantalon devant le médecin, il le baisse pas devant Seth Rollins. Puisqu'il va rien avoir à faire avec tous ces groupes pouilleux là de... Je sais plus où on était ce soir-là.
Je sais plus, Milwaukee.
Milwaukee, probablement, ouais. Une ville de pouilleux, quoi.
C'était peut-être la semaine dernière, Milwaukee, je sais plus.
En tout cas, c'est pas une ville où Dean Ambrose voulait aller fourrer son nez. Il insiste bien là-dessus. Voilà,
J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de villes dans lesquelles il va vouloir aller dans les prochaines semaines. Parce que ça a l'air d'être son truc, là. Mais...
Ouais, D'ailleurs, je suis une petite aparté, là. J'ai regardé le Chronicles qui est dit... À Samoa Joe, celui sur Dean Ambrose est vraiment super. Tu suis Dean Ambrose,
ouais,
entre le moment où justement il est out, hein, il était sur la liste des blessés, et son retour jusqu'à sa trahison avec le départ de l'annonce de Roman Reigns. Et c'est vraiment, vraiment bien. Il y a vraiment une super mise en scène. Ça mélange le kayfabe. C'est super, quoi. Vraiment très intéressant. Donc, je vous le conseille. Et il prophétise sa vengeance, hein, face au pouilleux de Seth Rollins. Pas de remède pour cette cause perdue malade jusqu'à l'os. Les commentateurs demandent à René de leur dire ce qui se passe. Bon, René, la pauvre René, botte en touche.
Oui.
Et dans la foulée, on a Monday Night Rollins. Donc Rollins est là. Il nous explique, Rollins, qu'il n'a pas été lui-même récemment. Et qu'il a fait son retour. Alors, ça fait un peu la 20e fois qu'il nous tient ce discours, quand même, Monday Night Seth Rollins.
Ouais.
Il en a marre de chasser Dean Ambrose, il en a plus rien à foutre. Bon, ça me fait marrer.
Oui.
Place au titre intercontinental et à l'Open Challenge. Donc, un petit Open Challenge à des familles. Et c'est la musique de Dolph Ziggler qui retentit pour leur 30e match de l'année. Ouais. Dolph Ziggler lui annonce d'ailleurs ce que j'ai trouvé très marrant. Peut-être, voilà, qui lui dit « Tu vas faire ce que tu sais faire de mieux, perdre face à Dolph Ziggler ». Le vrai best in the world, mais à la fin c'est comme une victoire du champion sur un Falcon Arrow, donc voilà, original,
ouais.
Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, hein, cette rivalité Dean Ambrose Seth Rollins,
ouais.
Surtout qu'on a d'un côté
un
mec, bah oui, ça devrait pas, on a d'un côté Dean Ambrose qui nous fait une séquence marrante certes, mais voilà, où il commence à faire du trash talk sur les villes alors que c'est censé être une rivalité intestine, enfin toi, les mecs devraient juste être omnibulés l'un envers l'autre, et en fait t'as d'un côté Dean Ambrose qui trash talk la ville, et de l'autre côté c'est Rollins qui dit en fait qu'il en a plus rien à foutre de Dean Ambrose. Et qui
balance. Du coup, nous non plus, ouais.
Bah,
ouais.
Du coup, ouais. Nous, est-ce qu'on a une raison d'en foutre, là, je veux dire
Bah non, non, c'est le problème. De toute façon, t'as bien résumé, c'est que quand ils disent à l'écran qu'ils s'en foutent, bah du coup généralement c'est que derrière ton écran tu t'en fous aussi. C'est un peu le problème, c'est que de toute façon tu peux pas t'intéresser à quelque chose si les acteurs eux-mêmes s'en foutent. C'est pas vendeur au possible. Donc là, j'ai vraiment pas compris cette semaine ce qu'ils ont essayé de faire. Alors l'angle de Dean Ambrose, bon ouais, ça m'a fait rire, mais c'est vrai que c'est pas terrible parce qu'il se concentre, voilà. Alors c'est son truc maintenant, au lieu d'être comme tu dis omnibulé par Seth Rollins, maintenant il considère que tout le monde fouette et qu'il veut aller dans aucune ville pour pas choper des maladies. Bon, Écoute, pourquoi pas si... En fait, à la limite, s'il y a ça et derrière, il y a une promo un peu enflammée sur Seth Rollins, ok, j'ai pas de problème. La cheap heat, ça a toujours existé. C'est bon, hein,
Ouais, bien sûr.
on va pas en faire des caisses sur de la cheap heat. Ça arrive tout le temps. Et puis, à la limite, c'était plutôt marrant avec ses seringues et tout. Donc,
Ouais.
pourquoi pas. Mais sauf qu'en fait, derrière, il parle même pas de Seth Rollins. Donc, il en a rien à foutre. Et alors après, voilà, c'était le max du foutage de gueule. Seth Rollins, c'est son open challenge qui dit qu'il en a marre de courir après Dean Ambrose, qu'il s'en fout et qu'il va se concentrer sur sa ceinture. Non mais au secours quoi, enfin, au secours. Donc ouais, je comprends. Et puis alors double face palm avec, tu te dis, allez un petit open challenge, on va se marrer, on va changer, on va changer un peu de
Ils veulent
paysage. Et
ils veulent
puis
changer d'air, alors nous aussi, toi.
ils veulent changer d'air, alors nous aussi on va devoir un petit match-up un peu frais. Et alors là, pour le coup, la musique de Dolph Ziggler n'a jamais été aussi adaptée avec le petit scratch du disque.
Point, 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 ouin, ouin, ouin,
Point,
ouin,
point, point. Ah oui, il y en avait déjà qui fantasmaient sur peut-être. Alors j'avais lu, parce que c'est vrai que Bray Wyatt est réapparu en house show il n'y a pas longtemps à Starcade. Alors il a l'air d'être clear. Alors du coup, on se disait, tiens, peut-être qu'il va revenir. Peut-être que ça va être un petit jeune. Peut-être que ça va être. Bon, Lars Sullivan, c'est un peu tôt parce qu'il commence à peine à l'annoncer. Mais il y avait pas mal de fantasmes un petit peu autour de cet Open Challenge qui avait été annoncé à l'avance, hein, sur Twitter et
Ah,
sur le
d'accord.
site. Et ben, en fait, non, pas du tout. Donc, c'était l'épisode 393 de. Bon, c'était un bon match, hein. D'ailleurs, au passage, j'étais très, très emballé par le finish. Je trouve que c'était, quitte à faire un match un peu random et sans véritable enjeu, parce qu'il n'y a jamais eu de suspense. Bah, écoute, c'était la bonne occasion d'installer, tu vois, le Falconaro comme un potentiel move qui peut finir des matchs. Donc ça, j'ai trouvé que c'était le seul truc positif à
Ouais.
retirer de ça. Je trouve que c'est assez malin de s'être servi de ce match-là pour faire ça. Mais parce que du coup, ça pourra donner peut-être dans le futur des near-falls assez sympa. Mais c'est tout, quoi. Enfin, c'est tout. Là, je comprends pas parce que voilà, ça devrait être tellement simple cette rivalité. Et il y a eu des belles choses qui sont dites dans des promos des semaines d'avant,
Ouais.
qui moi personnellement me plaisent pas mal. La promo là où l'attaque sur le cancer de Roman Reigns, j'ai trouvé qu'elle était géniale cette promo. Non, et ça
Ouais,
suit
le
pas du
côté de
tout
la
là.
maladie, enfin qu'ils doivent tous les trois, ils doivent payer de leur
C'est ça, ils doivent payer de leur péché en fait. Hein,
Ouais.
donc en quelque sorte, il revient un petit peu pour. Il s'autoproclame un peu, ouais, Dieu vengeur. Voilà. Cette alliance en fait c'était n'importe quoi et donc qui sème le grain récolte la tempête là on va tous y avoir le droit. Roman Reigns y a eu le droit, moi j'y ai eu le droit parce que tu as parlé des Chronicles de Dean Ambrose, mais c'est vrai que pendant sa blessure il est passé pas loin aussi de la sentence ultime,
Ouais.
hein, parce qu'avec son infection staphylocoque là sur quand il était blessé, et en fait voilà, il se dit, tiens, bah, écoute, maintenant c'est Seth Rollins qui va douiller, et puis bah, c'est moi qui vais infliger la sentence. Donc
Ouais,
j'ai trouvé que
c'était.
c'était pas mal, mais bon alors là on est revenu au point zéro quoi.
C'est dingue quand même que c'est
Je
simple.
suis
Ils
vraiment,
arrivent à
ouais, je
tirer
suis
un
surpris
angle
quoi.
assez original, assez intéressant, comme tu viens de le dire. Et finalement, bah, ils se font dessus, quoi, la semaine d'après.
Très
Bon,
étrange, mais bon, c'est
bah
pas
allez.
les seuls qui se font dessus, mais.
Non, bah tiens, on va parler de gens qui se font dessus ou qui se font sur d'autres choses, puisqu'on rend direction, hein, voilà, le cœur, hein, on va dire la tête de gondole de Monday Night Raw, la division tag team. Vraiment, on a la crème des équipes, des super match-up, des champions qui déroulent. Je déconne évidemment, puisqu'on a la Lucha House Party qui affronte The Revival pour une deuxième manche. Alors, avec la Lucha House Rules. Alors, pour ceux qui ne
Ah oui,
connaissaient pas,
toujours. Ouais.
comme moi
Alors,
je ne
on connaît
connaissais
toujours pas
pas,
d'ailleurs.
visiblement, c'est le simple fait de faire un 2 contre 3, quoi. Voilà. C'est un match à handicap autorisé. Donc, évidemment, les Revivals sont pas contents, ça balance. Ils rappellent les règles traditionnelles du tag team match, que c'est pas du 2v3, c'est du 2v2, que c'est du gros foutage de gueule. Et effectivement, c'est du gros foutage de gueule. Donc ça se résume à un match où il n'y a pas d'homme légal, il y a du surnombre, les botches sont autorisés, voilà, c'est un bon gros what the fuck. Et évidemment, à la fin, c'est la Lucha House Party qui gagne après avoir régalé, et les Revival qui repartent avec la queue entre les jambes. Bon, voilà, c'est délicat, hein.
Non, vraiment, parfois, je me questionne vraiment sur ce qui peut se passer. J'aimerais tellement pouvoir assister à des réunions de
Ah ouais.
booking pour savoir, mais genre, par exemple, pour ce segment, celui qui s'en est occupé, comment est-ce qu'il a réussi à vendre ça aux autres, quoi?
Ouais.
Ce serait très intéressant de savoir parce que bah là, on est à contre-courant total de toute logique, quoi. C'est un 3 contre 2 handicap, c'est les heals qui sont en difficulté. Et encore, si tu les faisais catcher comme des heals et si tu les faisais un peu insulter leur adversaire et tout,
Non.
tu pourrais essayer de tirer une sorte de pop un peu pour la Lucha House Party parce que de tout temps, quoi qu'il arrive, l'argument de c'est injuste ne tient pas systématiquement parce que c'est vrai que les gens aiment bien voir des méchants se faire un peu ridiculiser et prendre des fessées comme ça de temps à autre et tout. Ça fait toujours plaisir. Mais sauf que, en fait, là, on peut même pas vraiment. Parce qu'on est presque obligé de se prendre de sympathie pour les méchants parce que même dans leur discours, ils sont honorables. Tu vois, genre, ils veulent un match fair dans la pure tradition des tag teams et tout. Enfin, c'est. Tu te reconnais dans leur discours, tu vois, tu dis bah ouais, c'est vrai, moi j'aimerais bien voir un beau 2v2 bien classique et tout machin. Et après, derrière, même pendant le match, ils catchent même pas comme des heals, ils essayent de catcher réglo. En fait, c'est les autres qui catchent n'importe comment.
Ouais, qui font
Donc,
des tags dans tous les sens,
ouais,
qui
donc,
sont à 3 sur 1 en même temps.
ils sont à 3 sur 1 pendant un moment. L'arbitre, il est là, ouais, Lucha
Bah
House,
ouais, c'est
machin,
Lucha
ok.
House Raus,
C'est
donc
Lucha
tu.
House Rules, donc ok. Bon. Donc, ouais, je comprends pas trop, mais bon,
Non, de
ok.
toute façon, il y a beaucoup de choses qui sont difficilement compréhensibles ce soir. Une
Ouais.
autre, tiens, allez, on t'en veut une autre, on l'a une autre. Drake
Allez,
Maverick, hein, notre petit manager des AOP, hein, je vous rappelle les champions de Monday Night Raw, qui perdent assez facilement finalement, en weekly, explique que ces fuites urinaires sont la conséquence un peu normale, hein, de tout être se retrouvant en prise d'un géant de 2 m 20. Je crois qu'il hein, justifiait sa fuite urinaire par le fait qu'il avait été pris à la gorge par le Big Show.
c'est ça, exactement.
Ouais, ok, bon, on a compris la même chose. Et du coup, on a un deuxième match, mais cette fois-ci pour le titre. Hein. C'est pour le titre quand même de champion tag team. AOP contre la Glorious Team, hein, Bobby Roode et Chad Gable. Et pendant le match, Drake Maverick s'empare de la jolie robe de Bobby Roode, à 10 000 dollars, hein, je crois, la robe.
Oui.
Il l'enfile, l'embarque dans les toilettes. On a une petite sous le petit entron, ça s'affiche. Donc le match s'arrête, évidemment, Bobby se questionne, qu'est-ce qu'il fait avec ma jolie robe de gala quel sort malheureux lui réserve-t-il? Eh ben, le sort malheureux se résume à Drake qui pose la robe dans les water et qui pisse dessus en sifflant le theme song de Bobby Roode. Et du coup, AOP en profite pour choper la gagne. Voilà. Voilà la division tag team à Monday Night Raw. C'est beau, c'est fair, c'est pipi, c'est caca. Voilà.
Bon, alors je vais peut-être faire l'avocat du diable pour une fois. Je trouvais que c'était pas trop mal comme
Ah merde, ah bah dis-nous tout là. Je pense que les gens, nos auditeurs tendent déjà l'oreille là.
D'ailleurs, on en profite pour saluer les gens qui sont dans le chat,
Ah ouais.
puisque Camille, Galuf, Ziad et Richard nous ont rejoints. Donc salut à vous et
Salut à
merci
tous.
de tenir le coup avec nous devant ce récap de Monday Night Raw. Bon,
Jusqu'à l'état
je
la
vais mettre
barre.
un peu de positif, mais bon, léger, hein, mais bon, moi j'ai trouvé ça plutôt drôle, plutôt original. C'est pas parce que c'est pipi que forcément c'est
Non.
mauvais. Enfin, en l'occurrence, j'ai trouvé que c'est une meilleure façon d'utiliser un angle très très dispensable, certes, mais c'est une meilleure façon d'utiliser ça parce que en vrai, c'est un truc de heel assez horrible qui nous fait quand même le Drake Maverick d'aller pisser sur la robe de. Enfin, c'est un peu dans la hiérarchie de l'insulte. On est quand même assez haut. Donc, je trouve que c'est un bon truc de heel. Tu vois, genre moi, j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu ça à l'écran. Un mec qui va carrément aller jusqu'à pousser le manque de respect, jusqu'à aller pisser sur un truc de l'adversaire. Donc, sur le principe, je trouve ça pas mal. En plus, la petite touche humoristique, il siffle le theme song
Ça,
et
c'était
tout,
rigolo.
machin, je me dis, écoute, ouais. Après,
Double
bon,
insulte.
je suis pas en train de dire j'ai envie de le voir pisser sur les tenues de tous ses adversaires pendant des semaines. Hein. Je sais pas ce que je suis en train de dire. Mais voilà, je trouve qu'ils se sortent par cette petite vignette, ils se sortent d'un angle un peu plus qu'épineux, enfin voire carrément nul à chier là où il s'était pissé dessus, ou là je trouve que c'est honteux parce que enfin voilà, là tu ridiculises tellement un personnage pour rien que je trouvais ça vraiment assez dingue d'avoir pu proposer ça. Par contre, le fait voilà d'aller manquer de respect à un tel point que tu vas jusqu'à pisser sur la robe de ton adversaire, je trouve que c'était pas trop mal. Après, le qui m'emmerde un petit peu, c'est que bon, certes, après il y a pas mal de trucs qui font chier quand même dans ce match, parce que ça fait que la division tag team et les champions continuent de
tout est sujet à humour,
les AOP en fait on s'attendra
c'est
à
pas
avoir
leur
des
registre
énormes...
en fait les AOP, c'est ça qui
c'est pas leur registre, voilà, c'est ça, c'est pas leur registre. Ce title shot, moi, m'avait gonflé de base. Il vient de nulle part parce que.
Mais il vient d'un roll-up à la con.
Voilà, ça fait chier de voir des champions, surtout fraîchement couronnés, qui sont censés être ultra dominants.
Qui sortent des Survivor Series et qu'ils ont gagné Survivor Series,
exactement.
Leur match-up.
Du coup, ils se font battre en weekly et boum, ça fait title shot. C'est tellement. Mais c'est ce paroxysme de la fainéantise de booking de faire ça. Et derrière, du coup, on les fait pas gagner. Déjà, bon, encore un title shot en weekly, je trouve que bon, ok. Et derrière, on les fait pas gagner clean, bien. On les fait pas casser la tronche d'une opposition qui est censée être assez faible quand même. On se sert d'un angle encore pour tourner autour du pot, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Donc, en fait, c'est un peu ça qui me dérange. Après, l'angle, je trouve plutôt original et pas trop trop mal. Mais les AOP dans l'histoire sortent quand même un peu. Ouais, c'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux. Ouais. Et puis en plus, ça sous-entend que c'est pas fini parce que Bobby Roode, il va pas laisser passer ça.
Ah non, déjà, il faut aller au pressing, déjà.
Ouais,
ça prend
pressing,
une petite semaine.
Ouais, donc en fait, c'est aussi ça qui m'enchante pas, quoi.
En fait, c'est ça. Si t'avais eu. Si à côté de ça, c'est une fois de plus, c'est réussir à trouver un équilibre entre faire des séquences ridicules et à côté de ça.
Ils arrivent pas à trouver le bon
ouais,
curseur, quoi.
Toi. Prendre soin de tes catcheurs, de tes personnages et ne pas perdre à l'esprit qui tu bookes en fait, qui tu dois vraiment booker, qui tu dois vraiment pusher, qui tu dois mettre en avant. Là, tu mets des ceintures à deux rookies après voilà une année un peu critiquable en termes de gestion de la division tag team, même si c'était pas la galère absolue. Et historiquement, comme tu le dis, le déroulé il est assez dommage avec ces champions qui sont des Golgoths, qui représentent un petit peu, qui sont des personnages qu'on n'avait plus trop dans les divisions tag team, surtout du côté de Raw. Et donne-leur d'abord le temps. Ils ont fait ça pendant des semaines, ils roulaient sur des jobbers. Maintenant qu'ils sont champions, ils n'arrivent plus à rouler sur personne. Donne-leur quelques semaines où ils affrontent des mecs, et ils les éclatent, quoi, ils les pètent, etc. Et puis seulement quand ils commencent un petit peu peut-être à galérer, ou je sais pas, trouve une raison de faire ce que tu es en train de faire avec leur manager. Parce que concrètement, le manager, il n'avait aucune raison vraiment de faire ça, tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce qui justifie le fait qu'il va provoquer diversion, quoi. Alors qu'il a quand même deux Golgoths dans le ring. Donc c'est ça qui m'emmerde. C'est pas, ils ont pas pris leur temps. Ils ont voulu faire le côté rigolo dès le début. Du coup, on sait. D'ailleurs, le match était impossible à suivre parce que.
Il était impossible.
Donc ça c'est ça qui m'emmerde. Et du coup, j'accepterais plus facilement ce genre de séquence idiote si à côté de ça, on prenait le temps de prendre soin des Hopi. Et voilà, je pense qu'on a déjà passé assez de temps sur ce malheureux cas.
Oui.
Du coup, elle était quoi ? Une petite séquence Jobber's World.
Il y en avait un paquet.
À l'ancienne. Ember Moon a disposé d'Alicia Fox. Et Noé Rosé est arrivé. Et il s'est fait marave par Jinder Mahal. Voilà.
Super.
On va direction la division féminine. Avec peut-être un des moments qui a fait le plus jaser sur les réseaux sociaux, la promo de Nia Jax pour son affrontement face à Ronda Rousey à Survivor Series. Nia Jax est aussi reconnaissante, voilà, elle est reconnaissante pour avoir été la dernière survivante à Survivor Series. Hein, c'est vrai qu'elle est celle qui a fait gagner son équipe et elle a aussi cassé la gueule à Becky Lynch. Donc elle est aussi reconnaissante pour ça. Elle se moque de Ronda Rousey, incapable de la battre à Money in the Bank. Hein, on revient à Money in the Bank où effectivement il y a eu l'intervention d'Alexa Bliss. Et du coup, elle s'approprie un petit peu le mérite d'avoir provoqué la chute de Ronda Rousey jusqu'au Survivor Series, où elle s'est pris une déculottée par Charlotte. Donc ça me fait marrer parce qu'on met vachement l'emphase sur la déculottée Charlotte Flair. Et du coup, elle propose ensuite une impeccable imitation de la championne de Raw. Ça part dans le délire, c'est assez ridicule. Où elle fait des grimaces dans tous les sens. Elle se moque de Ronda Rousey. Elle déclare que c'est elle qui est qu'elle est en haut de la montagne, hein, c'est elle qui est en haut de la montagne, top of the mountain. Donc elle nous a fait un joli one woman show là, hein, ça m'a fait vachement penser à une espèce de one woman show de piètre qualité.
Un très très beau pot de fleurs à côté d'elle.
Ah ouais, un pot de fleurs samoan. Tamina.
Ronda
Rousey débarque, elle arrive tout sourire évidemment. Quand est-ce qu'elle arrivera un jour énervée cette fille, je sais pas. Elle chope la pop qu'elle n'a pas eu au Survivor Series, c'est toujours ça. Elle a la voix qui tremble en récitant sa petite promo là sans histoire, et à la fin, elle promet le pire à son adversaire. Mais avant de prendre rendez-vous là, chez l'ophtalmo pour soigner sa mauvaise conjonctivite, parce qu'il va falloir faire quelque chose avec les maquillages, la Ronda aussi, c'est pas possible.
C'est elle qui se maquille tout seule, ou elle demande à... Je sais pas ce que...
Ouais, déjà que je suis vraiment pas fan de son maquillage tribal là, des grands moments, des grands pay-per-view, on dirait plus un raton laveur qu'autre chose. Mais en plus, elle fait ça pendant les weekly, là, c'est assez dégueu, l'impression qu'elle avait une mauvaise conjonctivite.
Ah,
et une minute plus tard, c'est le déluge, puisqu'il y a une grosse baston alors qui mélange Natalia qui arrive en courant comme si elle sortait d'une raclette parce qu'elle a la moitié ballonnée là. Et puis elle tombe dans un traquenard parce que le Riot Squad était caché sous le ring. Ouais. Et du coup, gros bordel là-dedans, ça se termine comme
n'importe
ça.
Quoi.
Écoute, Nia Jax, on va lui donner son petit match là, hein, d'accord. Et puis après, on s'en débarrasse, non? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On la met dans la low card et on la fait rejobber, resquatcher des jobbers.
Je sais pas. Je sais pas, mais.
On lui demande d'arrêter d'appeler le Rock, son cousin, quand
ouais,
ça va pas.
Ouais, ce serait cool, ouais, qu'elle change d'identité et qu'on puisse se débarrasser d'elle. Là. Mais là, c'était un accident industriel de bout en bout, ce segment. C'était pénible à regarder. Oh là là. Et pour le coup, pour ceux qui suivent les revues.
les revues coquines.
Les revues coquines, les revues de Larry, son cas sur 411 Wrestling, il a mis dans son liste du segment que si jamais le but c'était de ne pas vouloir me faire regarder le match à TLC, c'était réussi. Je l'aurais pas mieux résumé, je pense. c'était une catastrophe de bout en bout. On le sait, hein, mais il ne faut pas lui donner de micro à Nia Jax. C'est une catastrophe.
Ah ouais.
C'est pas naturel, c'est mal joué, il y a rien en fait, c'est pas incarné, c'est rien du tout. Elle pousse, c'était bien leur truc d'essayer de capitaliser sur la hit du coup de poing qu'elle a mis à Becky Lynch, mais tu sens que c'est en fait quand ils tiennent un truc parfois la WWE, tu sens qu'ils veulent mais l'overkill au possible. Et alors là, elle était tout le temps avec son poing en l'air, et je suis la facebreaker, et elle le répétait toutes les trois phrases quasiment que c'était la facebreaker et machin. Ouais. Et c'est tellement pas organique comme discours que d'ailleurs le public réagissait à peine parce que on voit clair dans ton truc genre ben c'est bon voilà on a compris
on voit le script en même temps que toi là hein, donc
et voilà en fait on a l'impression qu'on est tous avec le script entre les mains et qu'on le lit avec elle et que c'est exactement ça et donc c'est nul et donc bon alors après Ronda Rousey la pauvre en fait elle peut à peu près s'en sortir d'habitude dans les dialogues. Elle est pas terrible en face caméra avec juste un truc à déblatérer. Dans les dialogues, elle peut être pas trop mauvaise. Mais bon, quand t'es face à Nia Jax comme ça, enfin là, il y a rien à faire. Donc en fait, c'est une catastrophe de bout en bout ce segment. Et puis alors à la fin, en effet, Natalia qui arrive avec sa combinaison qui la met magnifiquement en valeur. Et puis le Riot Squad qui sort du ring pour la table. Enfin, c'était l'impression qu'après c'était un pot pourri de trucs. Bon, alors attendez, merde. oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Bah ouais, bah mettez tout à la fin. Et puis voilà. Que ouais.
Bon écoute, attends, tu sais quoi? C'est pas fini. Hein.
Ouais, Ouais, non, c'est pas fini. Mais ce qui fait peur, c'est que du coup, bon, bah, Nia Jax, Ronda Rousey, ils arrivent à te dégoûter du truc. Mais genre, en fait, qu'est-ce qui va se passer après jusqu'au grand affrontement avec Charlotte ou Becky Lynch ou on sait pas. Parce que c'est vrai qu'à Raw, du coup, tu te dis que derrière, c'est un peu le néant pour aller affronter Ronda Rousey, vu comment c'est écrit, quoi.
Ouais, non, c'est terrible. Je crois que on a scellé le cercueil de Nia Jax, et puis bien, quoi. C'est le
ah,
career
c'est
breaker,
horrible.
Là, carrément, parce que. Enfin,
Mmh.
voilà, elle a jamais.
Carré breaker.
De toute façon, à chaque fois qu'elle a été mise en avant, ça s'est écroulé, hein, Nia Jax,
Oui, ça n'a pas
malheureusement.
fonctionné. Ils ont tenté plusieurs
Donc, il
fois.
faut abandonner. Elle est pas à l'aise dans son personnage. Elle veut être à la fois. Mignonne et une enfin indestructible, enfin il y a un personnage trop compliqué pour elle, hein, à tenir, trop
Oui.
compliqué. Il faut lui donner un truc, et même en lui donnant un truc, elle n'arrive pas à construire autour. Donc non, là on fait du bien à personne. On n'est pas Ronda Rousey, qui est un petit peu dans le creux de la vague là, en ce moment. Elle aurait bien besoin d'avoir quelqu'un en face qui
Avec
puisse
un peu de répondant, quoi,
un
ouais.
peu de répondant qui dans le ring et voilà permettre de enfin même et tu sais quoi tu mets Mickie James en face une
Ouais,
vétéran
franchement. Ouais,
qui sait
grave,
faire
je
une
suis d'accord.
promo et tu fais un
Ou
petit
alors
pro
tu fais une feud avec Natalia qui l'a trahi au lieu qu'elle se fasse
voilà
casser ses lunettes
ce
et
qui est
qu'elle chiale
complètement con on
avec
n'a
Flair.
jamais eu cette trahison de Natalia
Oui.
alors que
Mais
c'était
genre,
tout
en effet,
écrit
voilà des
quoi.
catcheuses expérimentées qui savent tenir le micro et qui peuvent faire une opposition créée, plus divertissante, quoi. Mais
Bah bien
ouais.
sûr, qui sont balancés l'autre là. Putain, casse-toi quoi.
Ouais, non, mais
Bref,
vraiment, ouais.
franchement, non mais je regarde et ça m'a fait mal. J'ai putain, pourquoi on se retrouve à regarder cette merde là de Monday Night Raw.
Ah,
non.
c'est pour vous, public.
Ah la vache. Bon allez, quand je dis que c'était pas fini, c'était vraiment pas fini, mais vous inquiétez pas, le calvaire est bientôt terminé. On reste dans la division féminine, puisqu'on a vu une petite séquence où Baron Corbin a promu Alexa Bliss au rang de, on va dire, général manager de la division féminine. Donc assistant manager quoi, hein, dédié à la division féminine. Donc elle était très contente, il était très content, tout le monde était content. Voilà. Ça c'est très bien. Du coup, bah, Alexa Bliss, première décision, passe à l'action. Elle invite Banks et Bayley à organiser un petit open forum, voilà, pour discuter tranquille avec les fans. Donc les fans peuvent leur poser une question. Et il y a une fan hein, qui non briefée, hein, ça c'est sûr, qui a pas de script, pas du tout choisi par la prod, qui demande à Bayley et à Banks comment elle changerait la division féminine. Donc la question la plus plate du monde. Elle, Bayley, alors elle te balance une réponse complètement naze du genre on continuerait d'essayer d'avoir des nouvelles opportunités. Ok, ma grande, on voit bien que c'est ce que tu fais depuis des années et où ça t'a amené. Et Banks, voilà un peu plus de caractère, merci, qui veut renvoyer le petit cul d'Alexa Bliss à SmackDown. Moi je dis oui, hein, moi on veut bien la récupérer, il n'y a pas de problème. Pourquoi pas? Et du coup, après, Alexa Bliss sème la discorde entre les deux meilleurs amis du monde, qui tentent aussi de la clasher. Mais elles se font attaquer encore par des heels cachés sous le ring. Hein. Tous les heels étaient cachés
Ah
sous le ring
ouais,
ce
c'est
soir-là.
très fort ça.
Donc on a pêle-mêle Alicia Fox, Mickie James et Dana Brooks qui visiblement est redevenue heel.
Redevenu il, ouais,
Comme
c'est
ça,
ça.
voilà pour le nombre. Sans succès, puisqu'elles se font un
Marc
petit peu
fait.
jarter par Banks et Bayley. Alexa Bliss, elle a le temps de s'échapper. Voilà, donc est-ce que cette Alexa Bliss, GM de la division féminine, t'a convaincu dès le premier soir?
Non, pas dès le premier soir. Non. Non, c'est dommage parce que c'est une bonne idée, je pense, mais et à la limite, pourquoi pas qu'elle se serve de ses pouvoirs nouvellement acquis pour aller faire chier finalement ces deux rivales un petit peu pas ces rivales de toujours, mais quand même, ça fait un petit moment maintenant que
Si,
ça
si,
traîne.
d'ailleurs, bah, ça a toujours été le côté
Ouais.
Force Horsewoman, hein. Je sais pas, tu te souviens, c'est que finalement, sortie d'NXT, c'était, oh là là, Alexa Bliss, Bayley, Banks et
Ouais, tout à
Charlotte,
fait.
la crème de la
Tout
crème, elle était toujours un peu dans l'ombre.
à
Finalement, l'histoire a montré que c'est Alexa Bliss hein, qui s'en est mieux le tiré,
fait. Oui,
qui s'en est mieux
carrément,
tiré, et du coup, ouais, effectivement, ce serait cool qu'elle profite de son nouveau statut pour
oui.
faire
Ouais,
chier encore
tu
un peu
sens que
plus.
c'est un peu ça.
Ouais. Il y a un
Et
peu
en fait,
ça.
on revient un petit peu à l'analyse que j'avais du début de l'émission avec Baron Corbin et tout ce qui s'est passé et tout ça. C'est que j'aime bien. Non, enfin, c'est plus l'inverse parce que moi je m'embrouille parce que du coup, Baron Corbin, j'aime pas l'idée, mais j'aime bien la forme. Là, là, c'est plus j'aime bien l'idée, mais j'aime pas la forme. C'est ce que je viens de dire ou pas? Je sais plus. Bref, ouais. On va reprendre mon raisonnement. Mais bon, grosso modo, je trouve que c'est pas mal. Alexa Bliss, GM, c'est cool. Le fait que potentiellement, ça fait un petit peu petite fille qui d'un seul coup a des super pouvoirs et mais genre méchante et puis qui tiens ah ouais cool je vais pouvoir emmerder toutes celles que j'aime pas voilà là tu sens que vraiment c'est la GM un peu immature qui dès sa première soirée au lieu de se servir de ses pouvoirs de GM pour booker des matchs, gérer la division et tout, bah, le premier truc qu'elle fait avec c'est d'aller pourrir la vie des deux nanas qu'elle aime pas. Donc, je trouve que sur le principe, ça colle bien à son personnage et ça peut donner une storyline assez sympa. Mais dans l'exécution, qu'est-ce que c'est chiant, putain.
Dès qu'il y a deux chaises au milieu d'un ring, tu dis à moins que ce soit Jericho ou deux, trois qui excellent dans l'exercice.
Ouais, donc c'est dommage parce que je pense qu'il y a un truc à faire, mais oh là là, la lourdeur et la lourdeur de la réponse de Bailey et de la question et puis du beatdown sans inspiration derrière qui arrive avec trois nanas complètement random qui viennent donc je sais pas qu'on dit mais j'imagine ont été enrôlés par Alexa Bliss pour venir foutre le bordel. C'est compliqué quoi. C'est tu te dis que à tous les étages de la division féminine là, c'est très très dur quoi.
Effectivement. C'est très compliqué. Effectivement, c'est vertical. Ouais. Bon, bah écoute, on va garder le meilleur pour la fin. Baron Corbin, hein, puisque il y en a au début, au milieu et à la fin aussi. Petit match entre Finn Balor et Baron Corbin. Balor qui s'envole pour la victoire, mais le GM transforme encore le match en 2v1 avec Drew McIntyre qui le rejoint et qui du coup place le tombé sur le pauvre Finn Balor qui ne peut rien faire. Et Bobby Lashley les rejoint à la fin pour la ratonnade post-victoire. Et c'est comme ça que se termine ce Monday Night Raw. C'est un incroyable main event. Bon.
Fantastique.
Voilà, peut-être un petit programme. On attend qu'une chose, c'est que tout ce petit monde se sépare. Que oui. Finn Balor ait un programme avec McIntyre. Que Elias ait un programme avec Bobby Lashley. Que Baron Corbin, je sais pas pour Baron Corbin.
Je sais pas d'ailleurs.
Je sais pas trop. qui retourne backstage, je sais pas trop. Tout reste à faire avec Baron Corbin. Mais voilà, bon, je sais pas si tu as beaucoup plus de choses à dire à la fin qu'au début concernant tout ça, mais.
C'était un peu chiant comme match. Je pense qu'il y a eu autant de Finn Balor, Baron Corbin que de Dolph Ziggler, Seth Rollins. Par contre, c'est pas du tout la même qualité, c'est sûr. Ça a jamais. Je sais pas combien il y a eu de matchs entre ces deux-là depuis le début de l'année, mais il y en a même eu. Je pense qu'il y en a eu bien deux en pay-per-view déjà.
Ouais.
Et ça n'a jamais été exceptionnel. Donc il y avait peu de chances que ça le soit là ce soir. Finn Balor continue de perdre. Même si, bon, bah oui, c'est sûr, là, c'était le foutoir. Il était complètement désavantagé, mais bon, il continue de perdre des matchs. Et en fait, finalement, tu te rends compte que j'aime pas trop. Je trouve que c'est très feignant. Mais après, bon, bah, il y aurait quelque chose à faire s'il y avait un face en face. Et le problème, c'est que là, en fait, tu vois que quand Braun Strowman est blessé, bah c'est le désert quoi. C'est le désert parce que Seth Rollins lui il est occupé avec Dean Ambrose et donc en fait il y a personne pour s'opposer à cette soi-disante force instoppable là qu'est Baron Corbin avec ses pouvoirs et Drew McIntyre et Bobby Lashley. Le truc c'est qu'en fait tu peux difficilement t'intéresser à ce groupe là si en face il y a pas une opposition crédible. L'opposition crédible elle a été écartée, elle était pas elle est blessée, elle va se faire opérer, ça se trouve, on ne sait pas si elle va revenir à TLC. Donc en fait, si ça se trouve, on est parti pour 3 semaines où les méchants vont faire la loi.
Oh bah oui.
Et en même temps, on s'en fout parce qu'il n'y a pas de héros en face pour venir contrer. Donc qu'est-ce que tu t'en fous en fait ? Donc c'est un peu ça le souci aussi, c'est que ils bookent des trucs sans penser finalement à est-ce que ça a une durée de vie ou pas. l'histoire qu'ils essaient de nous raconter. Et en l'occurrence, pas trop.
Non, ils se projettent pas à notre place, en fait, les mecs. Ils se mettent pas à la place des spectateurs. Comment on va réussir à embarquer le public dans notre histoire? Comment on va faire en sorte que les gens se projettent et aient envie que le gentil gagne et que les méchants perdent?
C'est ça.
C'est aussi
simple que ça. Oui, c'est aussi simple que ça. Et donc, les mecs, quand ils se posent ces questions-là, ils se disent pas est-ce que c'est en faisant perdre Finn Balor pour la 53e fois cette année, est-ce que c'est en faisant démolir le dernier face qui nous reste, Elias, en début de show, est-ce que c'est ça l'idée? Non, je suis pas sûr.
Bon, bah écoute, il leur reste une semaine pour trouver une idée, cette fois-ci la bonne. Et c'est un petit peu de remonter tout ça, parce qu'effectivement, comme tu dis, à tous les étages, dans toutes les divisions, on est en mode pilotage automatique et on laisse passer des idées. Enfin, je sais pas, t'as raison, je pense que soit Vince McMahon ne regarde même plus, ne valide plus rien ou regarde même plus ce qu'il signe, soit il manque une couche, toi, il manque un niveau de validation, je sais pas, des mecs qui ont du talent.
Il y a des trucs qui passent, tu te demandes quoi.
C'est pas possible, ils ont dû trouver un moyen de faire passer des trucs, de contourner. Le mec qui validait pas ce genre de conneries avant quoi. Bon, bah écoute, on arrive à la fin en tout cas. Mais juste avant, j'aimerais toucher un petit mot. Bah tiens, Giscal, tu peux peut-être nous le dire. T'as reçu un petit message Facebook il y a pas longtemps d'un artiste qui t'a contacté,
qui nous a contacté. C'est vrai, tout à fait.
Et j'ai mis le lien dans la description, donc tu peux nous en toucher un petit mot.
Bah écoute, oui, tout à fait. On a reçu un très gentil message. D'un prénommé Gwen, vous pouvez retrouver, enfin Gwen en tout cas, je sais, j'ignore Gwen si c'est ton pseudonyme d'artiste ou si c'est, enfin en tout cas voilà, on t'appellera Gwen parce que c'est comme ça que tu nous as contacté, qui nous a finalement contacté pour nous déjà nous envoyer un très gentil message, mais aussi pour nous partager son travail artistique, puisqu'il s'est lancé dans un projet de reproduire en pixel art tous les masques de tous les plus grands luchadors. Alors je suis malheureusement ce que je lui avais répondu, mal placé pour apprécier à sa juste valeur. C'est dommage qu'on n'ait pas Crix sous la main, notre résident luchador, pour analyser plus finement et reconnaître toutes ces petites têtes. Mais en tout cas, si vous êtes fan de Lucha, si vous aimez le pixel art, bah écoutez, allez voir son travail parce que c'est super bien fait, c'est vraiment top. Et en plus, il agrémente sur sa page Facebook, il agrémente chacune de ses petites créations d'une mini bio du luchador en reprenant un peu l'histoire, son palmarès. Donc, si vous êtes un peu fan de ce milieu-là et de ce type d'art, il y a moyen d'apprendre des choses. Donc, allez le soutenir, nous on a trouvé ça très très fun et il m'a même fait pour moi un petit Juan Cena, un John Cena avec un masque de luchador très réussi que je vais m'empresser de me servir de cette petite image.
Ton nouvel avatar quoi, c'est voilà, Noël avant l'heure pour Giscal.
C'était mon petit cadeau de Noël avant l'heure, je vais avoir un nouvel avatar magnifique. Si le lien est dans la description, c'est parfait.
Ouais, je l'ai mis dans la description.
Allez voir ce qu'il fait, c'est très sympa.
Et du coup, bah, j'en profite aussi pour en parler de nos auditeurs, puisque c'est un auditeur, hein. Un auditeur discret, oui. comme il a dit. Oui. Sur YouTube, nous venons d'atteindre la barre des 600 abonnés sur YouTube. Donc, on prend le temps de remercier tous les gens qui nous écoutent chaque semaine. Nos analyses de tous ces shows qui valent de 0 à 5 étoiles WWE et puis vous êtes aussi très nombreux à nous suivre en audio, donc voilà, ça nous fait plaisir, même si vous êtes des auditeurs discrets, on sait que quelque part dans la nuit des gens nous écoutent.
Ça fait plaisir.
Écoute les conneries qu'on raconte chaque semaine. Bon, allez, la grosse connerie, c'était peut-être de regarder Monday Night Raw, mais bon, fallait le faire. Alors, c'est l'heure du mot de la fin. Jessica, si tu veux bien nous partager ton top, un de tes flops et ta note, s'il te plaît.
Mon top, au début, j'avais envisagé peut-être de le donner à Drake Maverick parce que je l'avais trouvé assez drôle. Mais on va peut-être pas pousser le bouchon. Non, franchement, j'ai pas de top cette semaine. Il y avait rien. Il n'y avait rien du tout qui m'a enchanté ou qui m'a surpris, on va dire, dans le bon sens du terme. Par contre, les flops, il y en avait un paquet, mais elle ne va pas y couper. Je m'en fous si on tire sur l'ambulance à ce stade-là. C'est Nia Jax qui a été... Moi, j'avais envie de m'arracher les cheveux et de me crever les yeux là, en regardant sa promo. C'est incroyable de pouvoir susciter autant de go-away hit, comme ils disent. Là, c'est pas du tout de la bonne hit, c'est pas du bon travail ce qu'elle fait. C'est pas du bon travail, j'ai l'impression.
C'est
nul à chier, quoi, c'est surtout ça. Oui. Donc voilà, et ma note, j'ai pas le choix, je vais devoir mettre un 1 sur 5 à ce Raw. Il n'y avait pas un seul bon match de catch, je pense, en 3 heures d'émission. Il n'y avait pas une seule vraiment bonne promo. Aucun match pour TLC n'a été vraiment booké. Ou avancer. Même le seul match du côté de Raw qui est censé être un petit peu intéressant pour TLC, c'est Dean Ambrose Seth Rollins, et manifestement, bah, ils n'en ont plus rien à faire l'un de l'autre. Bon, bah, donc quand on a dit ça, je pense qu'on a tout dit. Donc vous pouvez vous dispenser gentiment de regarder Raw cette semaine si vous ne l'avez pas encore regardé, et vous concentrer sur SmackDown.
Ah ouais. Bah écoute, moi, mon top, c'est le teaser de SmackDown. En fait, pendant l'épisode de Raw, il y avait un teaser pour SmackDown et ça avait l'air bien. Du coup, je mets mon top au teaser de SmackDown et mon flop, je donne au teaser de Total Divas qui, pareil, nous aura un petit peu submergé. Là,
j'ai même pas vu, tiens.
Si, c'était avec... c'est le season finale, donc la fin de la saison avec Natalia qui apprend la mort de son père. Donc voilà, évidemment, c'est triste, toi. Mais genre, dix fois pendant l'épisode, j'en pouvais plus. Donc voilà, c'est un flop et un top un petit peu... tellement tout était ridicule que voilà, j'ai un top et un flop ridicule. Et ma note, c'est comme toi, c'est 1, mais même en mettant 1, je me demande si on n'est pas un peu généreux, mais bon, on n'a pas l'habitude.
Bah ouais, parce qu'en fait, le 1, il est pourquoi en fait c'est pour le papier et l'encre, parce qu'il n'y avait rien, donc c'est vrai que même 1, ça semble généreux.
Ouais. Effectivement, j'ai pas la peur de mettre 0 et de se faire taper dessus par les autres. Quoi, vous avez tout cassé? Non. On verra si...
Écoutez, réclamez dans les commentaires des réactions de Ringside qui manifestement nous tous au sein de l'équipe de la rédaction, enfin c'est pas une rédaction, au sein de l'équipe du podcast, nous trouve très sévère sur ce Raw. Écoutez, prenez-le à partie sur Discord, prenez-le à partie dans les commentaires ou sur le forum et demandez-lui ce qu'il en a pensé.
Qu'il nous rende des comptes. Bon, bah, tu l'as bien dit, effectivement, n'hésitez pas à commenter la vidéo, que ce soit pour Alpagay Ringside et expliquer qu'est-ce qu'il a trouvé de bien à cet épisode de Monday Night Raw. Vous pouvez évidemment nous suivre sur YouTube, hein, 600 abonnés, ça se fait.
Oui.
Catch-up CDC ou en audio sur iTunes, sur PodCloud, les réseaux sociaux, c'est Twitter, Facebook, Instagram, Catch-up CDC. On a un Discord, n'hésitez pas à venir vous inscrire pour discuter avec nous de l'art du catch. Commentez, mettez des pouces, mettez des cœurs, mettez des étoiles. On vous remercie hein, évidemment d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Je remercie également Giscal de m'avoir suivi dans cette galère.
Oh bah écoute, merci d'avoir montré la voie dans cette galère. C'est toujours plus agréable de suivre ça avec toi. C'était pénible hein, cette semaine, cet épisode.
Pénible. Ouais. Vaut mieux en rire qu'en pleurer.
C'est ça.
Voilà, vous aurez bientôt l'analyse de SmackDown avec les gens qui s'occupent d'habitude du show rouge. On verra si l'effet inverse s'est produit également. Qu'est-ce que des gens qui regardent Monday Night Raw et analysent Monday Night Raw chaque semaine vont dire du show bleu. Est-ce que tu penses qu'ils vont nous mettre un 4 sans parler du contenu de quoi SmackDown, vu qu'on a mis un 1? Tu le sens?
Sans parler du contenu, mais en prenant en compte le contenu quand même, parce que moi en tout cas j'aurais probablement mis 4 à cet épisode.
Bon, on verra jusqu'où ils iront. Bon, allez, d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut.
Allez, ciao.